Vous êtes sur Fred Film Radio, Bénédicte Pro, en direct du centre Georges Pompidou à l'occasion du festival Cinéma du Réel. Et je suis aujourd'hui en présence de Lydie Vissahaupt-Claudel, qui présente en compétition internationale un film qui s'appelle Killing Time. Bonjour Lydie.
Bonjour Bénédicte.
Dans ce film, vous nous emmenez dans un coin perdu, dans un désert du sud de la Californie, plus exactement dans la ville de 29 Palms, qui est une notoire base de marines et où donc la vie finalement est organisée autour de ce désœuvrement des marines qui rentrent du combat. Et donc on suit des jeunes gens dans leurs activités quotidiennes, ils passent le temps, ils tuent le temps, comme dit le titre. Voilà, ils jouent, ils vont beaucoup se faire tatouer, ils vont font du karaoké, enfin on sent comme ça cet ennui et de temps en temps on voit comme ça le désert dans le silence qui rend ça. Les personnages, les hommes et le paysage se ressemblent un peu. Alors Lydie, comment vous est venue l'idée d'aller dans cette Amérique profonde, d'aller jusque là-bas, dans cet endroit perdu au milieu du désert ?
Alors, mon expérience avec les États-Unis, elle remonte à il y a une quinzaine d'années, puisque quand j'ai eu 18 ans, je suis partie faire une année scolaire. Donc, j'ai fait un échange et donc j'ai passé 8 mois en immersion totale à vivre dans une famille américaine. Donc voilà, le point de départ, c'est ma vie privée en fait. C'est le fait d'avoir eu cette expérience-là. Et puis pendant cette année scolaire, j'étais donc au lycée et j'ai été très surprise de voir que très régulièrement à la cantine, le midi, il y avait des recruteurs de l'armée qui venaient. Discuter avec des élèves de terminale en manque de projet.
C'était dans quel état ça ?
Alors on était dans New Jersey, donc côte est, rien à voir avec la Californie. Voilà, donc ça c'est ma première rencontre avec, on va dire, l'armée dans la vie quotidienne des Américains. Et puis je rentre, et puis il y a le 11 septembre, et puis il y a l'entrée en guerre en Afghanistan puis en Irak. Et puis des gens que j'ai fréquentés qui sont engagés, que je sais partir au front, quoi. Donc voilà, ce truc me travaille. Et puis la question de l'identité américaine de manière générale me travaille. En 2008, je pars 3 mois avec mon compagnon à faire un long voyage le long de la côte ouest, cette fois-ci de l'autre côté.
Le film précédent, Sidelines, il me semble.
Side Roads.
Ah, Side Roads.
Voilà, qui du coup effectivement questionne des Américains sur leur identité, leur rapport au drapeau, au mythe de manière générale. Et puis en cours de route, sur le trajet, on s'arrête là, parce que c'était une des choses qu'on avait envie d'explorer, cette question-là. C'était un pays en guerre. En 2008, ça faisait déjà 5-6 ans que le pays était en guerre, donc c'était quelque chose qui nous semblait important. Et donc c'est simplement la carte de voir une base militaire, une zone grise, inaccessible, qui nous conduit à y aller. Et c'est la curiosité d'aller voir à quoi ça ressemble autour d'un territoire interdit. Et puis la découverte de ces mondes civils et militaires qui se rencontrent, et qui, ça m'a semblé complètement fascinant, parce que j'ai eu l'impression qu'on voyait énormément de choses. Il suffisait de regarder pour voir tout un tas de problématiques. Et donc voilà, on a passé 2 jours en ville et je me suis dit qu'il fallait absolument revenir.
Est-ce que vous avez eu une période d'observation ou est-ce que vous avez directement branché la caméra ?
Alors on a eu en gros une semaine où on a retrouvé les gens qu'on avait rencontrés la première fois. Et on a fait l'inventaire des lieux, quoi. En gros, on est allé voir tout le monde, tous les commerçants, rencontrer les gens, discuter avec les gens, acquérir leur confiance, expliquer le projet. Et la caméra et le chef opérateur image et le chef opérateur son sont arrivés une semaine après.
D'accord. Vous étiez combien dans l'équipe en fait ?
4. Donc d'accord. Mon assistant et compagnon et moi qui retrouvaient la ville comme moi. Et puis la caméra et le son sont arrivés une semaine après. On n'a pas filmé le premier jour non plus. Une fois qu'on était 4, il fallait à nouveau recréer la confiance avec les 4 personnes, puisqu'on était tous les 4 en immersion. Tous les 4, on devait tisser des liens de confiance avec d'abord les commerçants et puis les militaires. Donc c'était vraiment un travail d'immersion. Par ailleurs, les Américains se laissent filmer très rapidement.
Oui, j'allais dire, ils ont bien joué le jeu parce que, sauf peut-être à une reprise ou deux, ils ne regardent pas la caméra.
Oui, non, ils n'ont aucun problème avec la présence de la caméra de manière générale. Alors soit ils n'en veulent pas, donc ils ne veulent pas être filmés simplement, mais une fois qu'ils acceptent, ils ont tout à fait intégré ce rapport à l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes, et c'est quelque chose qui est très...
Même quand la caméra est tenue par une jeune femme.
Eh bien, la caméra n'était pas tenue par une jeune femme, justement, puisque c'était Colin Lévesque qui a fait l'image du film. Et bien souvent, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu confusion sur qui était aux commandes, en fait. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensaient que c'était un homme qui décidait.
Et est-ce qu'ils ont, parce que vous dites que vous avez expliqué le projet, mais et puis j'imagine que vous attendiez de voir ce qui se produirait, que c'est, vous n'aviez pas de conclusion préétablie, mais enfin, est-ce qu'ils ont compris vraiment ce que vous faisiez, parce que ce qui ressort n'est pas forcément à leur avantage, entre guillemets.
Je suis pas sûre qu'ils comprenaient. Je pense que souvent ils se demandaient effectivement quel était l'intérêt de filmer des choses qui a priori sont pas dans les films, sur des soldats. Enfin, j'ai l'impression, sur des Marines. Pardon. Sur des Marines, c'est important de le dire, parce que les Marines ne sont pas des soldats. Donc je pense que non, il y a beaucoup de moments où ils n'ont pas compris, mais ils ne se sont cachés de rien. Ils ont accepté qu'on les filme en silence, et je pense qu'ils ont conscience de ce qui dégage malgré tout.
Oui, par exemple, ils font beaucoup de blagues de marine. Il y en a un qui dit tout mon humour depuis que je suis marine, c'est devenu l'humour de marine. Je crois que quand j'arrêterai, j'aurai plus d'humour. On voit qu'ils sont conscients parfois de ce genre de choses.
Oui, ils sont conscients. Je pense que souvent, ils n'osent pas penser ce qu'ils sont en passe de perdre, parce qu'ils sont encore là. Ils sont encore en service. Ils sont encore. On est entre ces deux vies. On n'est pas encore dans le retour de la vie civile. On est peut-être avant un deuxième contrat, ils vont peut-être réenchaîner, faire leur carrière. Mais tant qu'ils sont en service, je pense que c'est très difficile d'ouvrir cette porte. Et c'est souvent une fois que, soit qu'ils ont été blessés de manière très importante, physique ou psychique, et qu'ils sont du coup mis à l'écart dans des hôpitaux et tout ça, soit quand le contrat s'arrête, que les choses commencent à décanter plus sérieusement.
Mais sur cette chose de pas penser, qui est justement un peu ce qui ressort du film, donc pas forcément à leur avantage, comme je disais, mais on l'entend dans une phrase que dit un leader à la fin, qui dit « La disposition des hommes à combattre pendant une guerre se mesure, sans y réfléchir, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe ou qu'ils ne le comprennent pas, se mesure à la manière dont on traite les vétérans. » Mais la partie intéressante de la phrase, c'est « sans réfléchir ».
Que la guerre soit juste ou pas. Parce que la question n'est pas de savoir si la guerre est juste. La question, c'est de défendre le drapeau, quoi qu'il en soit. Ils sont conditionnés à ne pas réfléchir. À ne pas réfléchir, c'est dur de dire ça. Ils sont conditionnés à suivre des ordres. Ce sont des militaires.
Et du coup, c'est vrai que dans leur train-train, une chose que j'ai remarqué, enfin, quand ils sont comme ça, dans cette période de désœuvrement à 29 Palms, c'est qu'ils font beaucoup de choses, ils s'occupent de leur corps. Alors, ils se font des tatouages, ils vont au salon de coiffure, ils vont chez le barbier, et puis ils y retournent, et puis ils vont dans les surplus militaires pour faire un peu de shopping.
Bah, le corps, c'est l'outil de travail. Si le corps, déjà, il y a l'ordre, il y a l'apparence, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un treillis ou un uniforme pour voir qui est militaire. Ils ont eu le même conditionnement physique. Donc ils ont beau être grands, petits, forts, moins forts, finalement ils ont développé les mêmes muscles, donc effectivement ça se voit. Mais voilà, le corps, il faut le soigner, il faut en prendre soin, puisque il ne doit pas nous faire défaut au moment où on doit pouvoir compter sur lui. Voilà, c'est beaucoup de gars patrouillent avec 50 kilos de matériel sur le dos, il faut pouvoir être apte. À tenir bon. Et donc c'est le corps qui doit... Et c'est le corps qui est aussi le lieu du rituel. C'est le corps qui va peut-être être blessé, c'est le corps qui va peut-être rentrer pas entier, et c'est sur le corps qu'on va poser les messages.
Et puis c'est vrai que ce qui est triste, et qu'on voit effectivement qu'ils ont... Au combat, c'est chez eux qui leur manque. Et quand ils sont chez eux, on a bien l'impression que c'est un peu ces moments comme ça où ils sont au combat qui leur manquent. Et finalement, il y a une impression très triste qui se dégage de cette ville. C'est comme si ces gens étaient devenus les avatars de l'impérialisme américain. Ces jeunes gens qui sont peu éduqués, qui considèrent que c'est un avenir, qu'arriver là à 29 Palms où ils font rien, c'est faire quelque chose de sa vie.
Et oui, souvent c'est voir le monde. Mais voilà, bien souvent, voilà, il y a voir le monde, mais il y a, oui, vivre une aventure dont on a rêvé parce qu'on n'imaginait pas un jour pouvoir voir le monde. Parce que voilà, on n'a pas d'assurance santé, on n'a pas d'argent pour faire des études supérieures, on n'aura jamais de prêt. Donc voilà, l'armée permet tout ça. Elle permet tous ces avantages pour des jeunes qui arrivent de situations socio-économiques. Difficile. Mais oui, il y a du désœuvrement aussi. Il y a un manque de... Il y a du désœuvrement avant l'engagement et puis il y a évidemment du désœuvrement après. C'est particulièrement cette ville qui fournit ça parce que voilà, on peut se retrouver à San Diego et être dans un cadre tout à fait différent avec l'océan et du surf et une grande ville et de quoi manger correctement aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment le pas de bol. Des jeunes oui. De 29 Palms, mais voilà, pour moi c'était important de les inscrire dans ce décor si évocateur de d'où ils vont et d'où ils reviennent, quoi, et dont ils ne peuvent pas se passer. C'est vraiment une prison volontaire, quoi. C'est-à-dire, vous parliez d'addiction, il y a une réelle addiction.
Et c'est ça, c'est le mélange, en fait, entre des horizons vastes, des aspirations vastes, des volontés vastes, et puis un cadre restreint, contraint, et donc des horizons petits, étroits, qui ressortent de votre film Killing Time. Merci Lydie Wissaupt-Claudel de nous avoir accordé cette interview.
Merci à vous.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.